CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème du jour est « La faveur divine vous accompagne partout ». Amen.
Amen, Yveline.
La faveur nous accompagne jusque sur ce plateau, messieurs, mesdames.
Le cantique, oui, le bonheur et la grâce.
Eh bien, ils nous accompagneront jusque...
Ah non, bah continue.
Oh, bah non, mais non, mais non, je veux pas casser le...
Mais je le connais pas, non.
Oh, c'est un très vieux cantique, c'est pour ça, t'es trop jeune.
Ah, c'est ça, malheureusement. Tu me le chanteras au rentrée.
Ouais, je te le consens, je te le chanterai.
Exactement, Annabelle, ça va bien aujourd'hui?
Ça va bien.
Ça va bien, t'as un beau t-shirt.
Merci.
Je voulais le souligner quand même.
Et toi, Anne, t'en penses quoi?
Ben, c'est pas ma couleur. On va dire ça comme ça.
Mais c'est peut-être la mienne.
Ah ben, vous voyez, avec le noir, ça va bien.
Oui, oui, ça, ouais. Ça fait ressortir
le
cheveux.
Le bleu et le noir, ça va bien.
Je vois ton t-shirt, je suis comme Zachary qui ressort...
Il est muet, tu es sans mots.
Tu es sans mots.
C'est merveilleux.
Ouais. C'est merveilleux.
Non, non, ton t-shirt, il est génial.
Aujourd'hui, annonce spéciale, c'est la dernière émission Bonjour chez vous de Jérémy Sourdril. Pour de vrai. Pour de vrai. Non, bah on n'applaudit pas parce qu'il part.
Bah on voulait le nommer.
On est triste. On est triste.
C'est la faveur. C'est la faveur.
Donc Jérémy, tu pourras un petit peu plus loin dans l'émission nous dire les raisons de ton départ de Bonjour chez vous, que je regrette énormément.
C'est à cause de mon t-shirt, parce que je peux changer.
Non, c'est ton t-shirt n'est pas changer. Une occasion de chute. Non,
nous allons tout d'abord,
tu
diras tout à l'heure la raison de ton départ. Nous allons tout d'abord commencer avec la pensée du jour. Mais avant, je veux vous dire que nous aurons dans la rubrique « C'est mon histoire » Wafa qui est venue nous partager son périple avec son mari et ses enfants de l'Égypte jusqu'au Canada. Comment justement la faveur divine a été sur eux et les fruits qu'ils portent désormais parce qu'ils ont été obéissants au Seigneur. Donc Anne, on commence avec toi dans la pensée du jour.
Depuis que nous sommes petits, nous essayons d'attirer la faveur. On essaye d'attirer la faveur de nos parents, la faveur de nos amis, la faveur de nos professeurs. Et connaissant un peu Dieu, nous essayons d'attirer la faveur de Dieu. Et il y a un premier constat de base qu'il faut faire, c'est que le péché sépare et nous prive de la faveur de Dieu. Et c'est seulement à cause du sacrifice de Jésus à la croix que la faveur de Dieu nous est acquise. Parce qu'une fois que le pécheur s'est repenti et qu'il a reconnu que Jésus était son sauveur, il y a une grâce particulière qui lui est faite et la faveur de Dieu lui est acquise au travers du Fils bien-aimé de Dieu. Dans Jean 15, 14, il est dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Mais ce n'est pas parce que la faveur de Dieu nous est acquise par la croix qu'il n'attend rien de nous, bien au contraire. On sait en lisant la parole de Dieu qu'on peut irriter Dieu, on peut aussi lui plaire et de grandes récompenses attendent celui qui sait plaire au Seigneur. Nous désirons attirer la faveur de Dieu, d'attirer ses regards bienveillants. Et il faut veiller à certaines choses. Tout d'abord, dans Proverbe 8, il est dit « Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Et plus loin, il est dit « Il a trouvé la vie, il obtient la faveur de l'Éternel. » Et là, il est parlé d'obéissance. Et c'est vrai que celui qui veut la faveur de Dieu est celui d'abord qui écoute ce que Dieu dit et qui veille chaque jour à obéir à la parole de Dieu. Ensuite, il y a un autre constat qui est très important dans la parole de Dieu, c'est que celui qui a la faveur de Dieu, c'est quelqu'un qui sait aimer. Et ce passage fondamental de Jean 15, 12 nous dit ceci. « Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande, et je ne vous appelle plus serviteur, je vous l'ai lu tout à l'heure, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi qui vous ai choisi. » Et je vous ai établi. Et il finit au verset 17 en disant « Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. » Et Paul insiste lourdement aussi dans Colossiens 3, 14. Après avoir énuméré tout ce qui est attendu du chrétien pour plaire à Dieu, il est dit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. » Et dans d'autres versions, il est dit « Amour, qui est le lien de la perfection. » Donc on voit que la faveur de Dieu nous est particulièrement acquise si on sait aimer. Et aussi, un autre point qui est important, à part aimer, c'est aussi de se sanctifier. Celui qui a la faveur de Dieu sait se sanctifier et s'y applique. Et encore, Paul aux Colossiens nous dit un peu plus loin, dans Colossiens 3:12, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et il est dit un peu plus loin, « Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, la méchanceté, la calomnie, etc. » Donc on voit que celui qui sait se sanctifier s'attire la faveur de Dieu. Et aussi, enfin, celui qui attire la faveur de Dieu, c'est celui qui est humble et qui sait le rester. Proverbe 22:4 nous dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Alors on voit qu'il y a une très grande récompense pour celui qui sait se maintenir dans l'humilité. Donc en conclusion, je dirais que la recette infaillible pour attirer la faveur de Dieu, c'est déjà de connaître Jésus et d'en faire son sauveur. Et ensuite, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, l'amour sincère, et le renoncement aux attitudes de péché qui irritent par-dessus tout l'Éternel et par-dessus tout l'humilité aussi qui nous garantit la richesse, la gloire et la vie. Quelle faveur!
Amen! Merci Anne! La faveur divine, c'est quelque chose d'extraordinaire.
La faveur divine ou...
Non,
la
divine.
La faveur divine, non.
Mais d'accord. Tu peux avoir ma faveur aussi, mais merci. Pas toujours en fait. Moi, c'est plus compliqué, mais avec Dieu, par contre, c'est beaucoup plus simple. Tu l'as dit, Anne, la faveur divine, elle est disponible pour les enfants de Dieu, vraiment, mais sous certaines conditions. Alors, c'est pas un chantage que Dieu nous fait, c'est simplement que dans son royaume, il y a des lois, tout simplement des lois spirituelles qui font que lorsque on marche dans l'obéissance à sa parole, eh bien, en échange, entre guillemets, en fait, on a accès à la bénédiction de Dieu, à sa faveur, à sa grâce sur notre vie. On va regarder notre verset du jour qui nous parle d'une bénédiction bien spéciale, Deutéronome 28:6. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. On voit cette faveur divine qui est disponible, cette bénédiction qui est disponible en fait tout au long de notre vie. Donc que ce soit lors d'un voyage très spécifique, mais aussi au début de notre vie, à la fin de notre vie, on a accès à cette faveur où Dieu nous accorde sa protection divine, en fait.
Oui. Dieu nous accorde sa protection divine en tout temps, et particulièrement à celui qui lui est fidèle, hein, on l'a vu. Et par contre, ce n'est pas forcément ce qu'on va faire de bien qui va nous attirer la faveur de Dieu, c'est déjà notre état de cœur. Mm-hmm. Hein, on le voit dans Matthieu 7:22, malheureusement, hein, c'est un contre-exemple, mais plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Donc c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Et puis, j'ai pas la fin du verset, mais la fin du verset dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Donc c'est une sentence qui est terrible, qui montre qu'on n'a pas la faveur de Dieu forcément parce qu'on fait des choses, et même dans le nom de Jésus. Donc c'est vraiment l'état de cœur, et on le voit dans les versets que j'ai cités dans la pensée du jour, c'est l'état de notre cœur qui fait qu'on va avoir la faveur de Dieu, parce que Dieu va sonder notre cœur, il va y voir vraiment les scories, les choses souillées, et il accordera sa faveur à celui qui sait se garder pur, mm-hmm. et à vraiment celui qui régulièrement se place sous le sang de Jésus et s'applique à vraiment conserver avec quasiment jalousie les commandements de Dieu.
Amen.
Ça vous inspire pas, les
amis? Moi, je pense, Anne, qu'on va faire l'émission à deux.
À deux, alors allons-y, Yveline, continuons.
Non, Jérémy a quelque chose à nous dire, je le sais.
Oui, je suis béni à mon arrivée et je suis béni à mon départ.
Mm-hmm. D'accord, donc Jérémy, tu veux nous parler de ton départ, c'est ça en fait?
Non. Annabelle m'a fait un signe, vas-y Gwen.
Non, c'est intéressant le verset là, parce qu'il dit, normalement c'est quand on part et quand on arrive, tu comprends? On part quelque part et on arrive à un endroit, mais lui, le verset il dit, à ton arrivée.
Il y a le verset qui parle aussi du départ et de l'arrivée.
Mais ce qui est important de savoir, c'est que lorsqu'il dit par exemple à Abraham qu'il va partir, à un moment, il arrive dans un endroit et il est béni à cet endroit-là. Mm-hmm. Et il repart à un autre endroit et il est encore béni. Mm-hmm. La faveur est vraiment sur sa vie. Mm-hmm. Mais celle qu'on, moi, je trouve que le personnage où on voit le plus la faveur dans sa vie, c'est Joseph. Mm-hmm. Joseph, c'est quelqu'un qui a su être dans la faveur de Dieu. Et on voyait tous les éléments que Anne a donné. Mm-hmm. On voyait que dans dans sa crainte, dans la crainte de l'Éternel, c'était quelqu'un qui marchait dans la crainte de l'Éternel. Ouais. C'était quelqu'un qui marchait dans l'obéissance, et c'est quelqu'un qui a marché aussi dans l'amour vis-à-vis de ses frères, malgré la calomnie, malgré les persécutions en fait qu'il a vécues. Et accueillir la faveur, c'est dans n'importe quelle situation, que ce soit dans la prison, que ce soit au gouvernement comme il l'a été, que ce soit dans la maison de Potiphar, c'est quelqu'un qui attirait la faveur de Dieu parce que son état de cœur était dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance à Dieu et dans l'amour qu'il portait aux gens avec qui il était entouré, que ce soit ses frères ou bien aussi même son patron, comme il a aimé Potiphar, au point de dire « moi, je ne veux pas toucher sa femme, etc. » Il était vraiment intègre. Et il y a des gens qui marchent dans le succès et ils pensent que c'est la faveur. Mais c'est pas la faveur. La faveur de Dieu, c'est tellement...
Mais c'est indépendant de nous-mêmes, en fait. C'est ça qui est vraiment la différence. Et Joseph, finalement, ne cherchait pas la faveur. Il ne faisait pas les choses pour être favorisé, pour être aimé des autres et pour que Dieu déverse quelque chose. Mais il le faisait simplement parce que c'était son attachement à Dieu qui faisait qu'il se comportait avec droiture, qu'il se comportait avec amour, avec respect, malgré la situation dans laquelle il était. Donc, c'est quand même assez extraordinaire d'avoir réussi à garder son cœur dans une situation aussi difficile dans laquelle il était.
Absolument.
Et c'est un point fondamental que tu viens de dire là, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire les choses pour s'attirer la faveur de Dieu, parce que notre objectif, ce n'est pas de s'attirer d'une manière égoïste la faveur de Dieu, c'est de lui plaire parce qu'on l'aime, et parce qu'on ne veut pas lui déplaire, parce qu'on ne veut pas l'insulter, on ne veut pas lui manquer d'honneur. Et moi, j'ai assisté à ça dans certaines circonstances, il y a des gens qui vraiment déploient des trésors de zèle pour s'attirer la faveur. Mais je pense que c'est pas forcément, c'est pas une mauvaise motivation, mais ils prennent la lorgnette par le mauvais bout. Il faut faire les choses avec zèle parce qu'on veut faire plaisir au Dieu qu'on aime. Mm-hmm. Quand bien même, aucune faveur ne nous sera accordée.
Exactement, c'est ça, il faut réaliser ça.
Puis dans ce que je voudrais compléter aussi ce qu'a dit Gwen pendant que tu parlais, je pensais
à David. Ça ne nécessite pas d'être complété, c'était parfait.
Non, c'était parfait.
Je rigole.
C'est parfaitement complémentaire.
Ah oui. C'est vrai que Joseph était un homme intègre et que grâce à son intégrité, il s'est attiré la faveur de Dieu. Mais je pense à un autre exemple biblique qui est David, qui n'a pas toujours été intègre, il n'a pas toujours marché dans l'intégrité et pourtant, il avait la faveur de Dieu.
Alors ça contredit tout ce que tu as dit.
Alors ça contredit ce qu'on dit, oui et non. Mais on voit dans les psaumes, par exemple, combien David avait un cœur déchiré à l'idée du péché qu'il avait commis. C'était un homme qui se repentait profondément et qui était attristé d'avoir attristé Dieu. Et donc, ce qui a amené la faveur de Dieu sur la vie de David, c'est non pas son intégrité absolue, le fait qu'il soit absolument sans reproche, c'est le fait que malgré ses failles, il est toujours revenu avec un cœur repentant, sincèrement repentant vers Dieu. Donc on peut, oui, attirer la faveur de Dieu en marchant dans une parfaite intégrité, mais on peut aussi être un pharisien et avoir un mauvais cœur.
Ça, c'est sûr.
Et par contre, un gars comme David qui a péché, mais qui s'est profondément repenti, qui a changé d'attitude, il a plu au cœur de Dieu.
Et je pense que la faveur, c'est quelque chose qui fait partie de notre héritage, qui nous appartient. Et c'est comme toutes les autres choses qui font partie de notre héritage de bénédiction. Ça peut être mal utilisé, mais la faveur n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsqu'on a des cœurs qui ne sont pas complètement purifiés de certaines motivations, ça peut devenir des occasions de caprice, en fait. Et de dire « Ah, mais moi, je veux la faveur, je recherche la faveur. » Mais la faveur nous accompagne, la faveur se démontre, elle vient directement de Dieu. Et c'est vrai que c'est pas à nous d'aller forcer la faveur, on paye pas des pots de vin à Dieu pour qu'il puisse nous faire passer par le tapis rouge, je vais donner un petit billet, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est quelque chose qui va découler naturellement de notre communion avec Dieu. Et comme disait Anne, je vais pas le dire parce que je vais le dire n'importe comment, mais on prend le truc du mauvais côté.
Alors bien sur le mauvais bout.
Exactement. C'est que on se dit parce que je suis chrétien, je dois voir la faveur de Dieu se manifester dans ma vie, sinon c'est un échec. Ça veut dire je dois avoir la plus belle voiture, on doit me dérouler le tapis rouge quand je vais à l'aéroport, on doit me faire passer en première classe quand je prends l'avion. Et c'est comme des espèces de conditions, mais c'est dommage de mettre autant d'efforts à rechercher la faveur qui nous est donné, qui nous est accordé, plutôt que de rechercher directement Dieu et puis d'être heureux et de pouvoir le louer dans toutes les circonstances, en fait. Et une des parties de la faveur divine, c'est d'avoir cette liberté de pouvoir louer Dieu là où on veut, quand on veut, peu importe les circonstances, et de pas transformer la faveur par des caprices, en fait.
Et ce qui montre qu'on a la faveur, j'allais dire, c'est pas le fait de passer devant tout le monde à l'aéroport, c'est vraiment parce qu'on est sauvé. Je veux dire, l'absolue faveur qui nous est faite, c'est que malgré notre nature pécheresse, on est sauvé. Et ça devrait suffire à attirer, à faire sortir du plus profond de notre être les plus grandes actions de grâce. Et le reste, j'allais dire, c'est du bonus. Et quand bien même ce bonus-là serait pas là, on a quand même la faveur maximum de notre Dieu.
Amen, amen. Et la faveur divine ne doit pas être non plus une occasion de chute sur notre vie. Parce que ça peut être le cas dans certains cas. On va pas comprendre pourquoi on n'est pas favorisé à notre travail, par exemple. Mais en réalité, on n'est pas capable de supporter. On risquerait de tomber simplement dans l'orgueil. Cette faveur qui nous est accordée pourrait être une occasion vraiment de chute pour nous, parce que on penserait que c'est grâce à nous, parce qu'on est meilleur, parce que si, parce que ça. Alors que c'est, comme tu le dis, le salut la plus extraordinaire des faveurs. Et on voit que c'est une grâce qu'on ne mérite pas. On n'avait rien fait pour le mériter, on ne le mérite pas et on le reçoit. Donc cette faveur doit vraiment toujours être accompagnée d'humilité, parce que sinon ça devient vraiment une occasion de chute pour nous-mêmes et pour les autres qui nous entourent.
Mais tu veux qu'on continue sur ce point-là ou je peux dire autre chose?
Attends, je vais consulter mon ordinateur.
C'est pour ça que je pars.
Tu peux aller dire ce que tu veux.
C'est son t-shirt. Tu...
Ouais, c'est le t-shirt.
C'est que la faveur divine vient casser aussi certaines idées religieuses qu'on peut avoir. Le chrétien pas de bol aussi, qui s'attend jamais à rien de bon, qui s'attend tout le temps au pire. Ben, moi, j'ai pas de bol. De toute manière, il y a un arbre qui tombe, il tombe sur ma voiture. Il y a un trou dans la rue, c'est moi qui me le prend, il y a une averse, c'est sur moi que ça tombe. Et en fait, on n'est pas maudit. Chrétien, pas de bol. On n'est pas maudit, nous sommes bénis, on vit dans la bénédiction. Donc non, on ne le recherche pas, mais c'est anormal d'être un chrétien né de nouveau et de ne voir aucune manifestation de la faveur dans nos vies. Et ça se manifeste dans tous les domaines. Et c'est peut-être quelquefois, on s'attend tellement à des choses qui sont bien, mais qui sont quand même petites, genre une place de parking. Ah ben mince, je ne suis pas bénie. Mais dans d'autres choses de notre vie, si on ouvre nos yeux, on voit que la faveur divine est en action. Par exemple, nous, quand on a acheté notre maison, je considère que c'était vraiment la faveur. Le monsieur a mis son poteau, son panneau dans son jardin le matin même. Le soir, on l'a visité et on est les seuls à avoir appelé, on est les seuls à être allés. C'était une faveur, surtout que dans ce quartier-là, les maisons sont assez recherchées. Ben, je vois une manifestation de la faveur. Et dans différents domaines de notre vie, c'est normal de s'attendre à la faveur de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes bénis, il nous aime et nous sommes favorisés.
Ah, voilà. Ben, Annabelle.
Moi, ça fait plusieurs jours que je médite justement sur Deutéronome chapitre 28, où on parle des bénédictions qui s'attachent à celui qui sert Dieu, qui aime Dieu et qui obéit à Dieu. Et Dieu dit que la bénédiction, elle nous atteindra, elle nous poursuivra. Et il y a tellement de bénédictions.
Annabelle vient de frapper Gwen si vous ne l'avez pas vue.
Tellement de bénédictions
qui
sont rattachées au fait d'être avec Dieu et de marcher avec Dieu. Et c'est vrai qu'il y a de multiples bénédictions, de multiples facettes. On est censé savoir que nous sommes bénis. Des fois, comme le dit Annabelle, on n'ouvre pas les yeux, on ne réalise pas qu'en fait, il y a vraiment une faveur sur nous. Je crois que déjà que cette faveur nous atteint parce qu'on est simplement enfant de Dieu. Et des parents devant leur bébé, il n'a rien fait, mais il y a une faveur divine, il y a une faveur de parentale de ses parents vers le bébé. Et je pense que déjà, la faveur divine est sur nous parce qu'on est ses enfants. Donc l'accès a été inauguré, comme disait Anne, voilà, on peut entrer dans la présence de Dieu comme ça, et ça c'est vraiment la faveur divine. Mais cette faveur, la volonté de Dieu exprimée des cieux, elle doit se manifester aussi dans notre vie. Et effectivement, il y a des petites choses comme ça, l'achat d'une maison, ou des choses dans nos vies qui montrent et qui expriment qu'il y a une faveur sur lui. On peut voir par exemple avec Abraham, la Bible dit qu'il y avait vraiment une faveur sur lui quand on voyait sa richesse, parce que Dieu l'avait béni. Donc on pouvait voir à travers sa richesse même financière qu'il y avait une bénédiction de Dieu. L'argent dans sa vie était rattaché directement, quand on lit le passage par exemple, à la bénédiction de Dieu en fait. Donc il faut comprendre, déjà, ouvrir les yeux des fois et se dire, c'est vrai, je suis béni par mon salut. Mais en même temps, il y a plein de bénédictions que Dieu voudrait me donner. Mais si je ne suis pas dans la foi pour les recevoir, en fait, elles vont tomber à côté.
Il y a une faveur. Si vous vous souvenez, quand j'ai fait ma rubrique, pour ceux qui étaient sur le plateau, quand j'ai fait ma rubrique sur Corrie Ten Boom et sa sœur Betsy, elle voyait une faveur de Dieu, vraiment. Hein, quand elles sont passées à la sécurité, que les gardes n'ont pas vu la Bible qui était cachée sous la robe, quand elles ont pu passer aussi ce sirop pour la toux, pour sa sœur, quand il y a eu ces histoires de puces, si vous vous souvenez bien, il y avait une faveur, même dans des choses. Parce que quand tu es dans un camp de concentration, on peut pas dire que tu sois dans l'abondance. Mais non, par contre, la faveur de Dieu s'exprimait. Et la faveur de Dieu, elle était époustouflante dans le cas de ses deux sœurs. Oui. Et même quand il y a eu cette erreur administrative et qui a permis de la faire sortir du camp de concentration, alors que toutes les femmes de sa classe d'âge ont été gazées la semaine d'après. Mmh. Il y avait une faveur, mais la faveur de Dieu ne s'exprime pas forcément par des faveurs matérielles, mais par des choses qu'on peut voir, comme ça, des choses tangibles, où il y a la faveur, la protection de Dieu sur ses enfants. Mmh. Et Corrie Ten Boom le dit, elle a été favorisée de Dieu depuis le début jusqu'à la fin de tout son parcours. Mmh. Et un peu comme Paul qui disait qu'il est passé par des temps de disette et des temps d'abondance, mais en toute chose, il a été béni. Mmh. Et Corrie Ten Boom, c'était exactement ça. Elle a été bénie dans les temps d'abondance comme dans les temps de disette, parce que la faveur de Dieu ne s'exprime pas que dans l'abondance. C'est elle vrai. S'exprime aussi dans toutes sortes de circonstances de notre vie terrestre. Puis il faut toujours prendre aussi ce regard particulier. La faveur divine, elle est à juger à l'aune de l'éternité. Ma faveur, elle est gagnée pour l'éternité. Et la faveur suprême que j'ai gagnée, elle est dans l'éternité. Même si oui, Dieu me favorise là, et on l'a vu et on le voit dans nos vies personnelles, comme on est favorisé aussi par rapport au reste de notre génération.
Amen, amen. Et Jérémy, on a été favorisé de t'avoir avec nous dans Bonjour chez vous. Est-ce que tu veux nous annoncer les raisons de ton départ?
Mais c'est toi, Evelyne. Je ne supportais plus.
Eh ben, c'est réciproque.
C'est émouvant, hein.
C'est émouvant, j'ai la larme à l'œil.
On s'aime beaucoup.
Non, il y a quelques semaines, Dieu m'a vraiment mis à cœur de me consacrer davantage à quelques projets, entre autres l'écriture de livres. J'ai senti que je devais écrire plus qu'auparavant. Continuer à me consacrer dans prières inspirées, bien sûr, dans des projets ici à MCI. Mais à cause de notre agenda, voilà, on ne peut pas tout faire. J'aimerais laisser la place à de nouveaux chroniqueurs qui auront la joie de partager cette faveur divine. Donc je vais continuer, on va continuer de me voir dans Prière Inspirée. Mais c'est simplement, il faut être focalisé sur ce que Dieu nous demande. Donc ça a été une bonne saison d'être ici à Bonjour chez vous. Un bon temps aussi chaque semaine que j'avais avec vous. Mais il y a une nouvelle saison encore. Plus glorieuse pour moi.
Alléluia. Amen. On s'en réjouit pour toi, Jérémy, et tu vas encore effectivement nous bénir dans Prière Inspirée, et tu vas être focalisé sur les choses que Dieu t'a mis à cœur, puis on s'en réjouit. Merci.
Sur ton mariage.
Sur ton mariage. Merci pour toutes tes pensées.
Je suis toujours focalisé.
Tes pasteurs, j'ai une question, tes rubriques famille, et je pense que c'est tout. Quelques livres conseil que tu coach. As présentés, conseil du coach également. Voilà, merci pour ton investissement.
Merci
et
à toi.
On va regarder.
Non, elle a envie de passer à autre chose. C'est bon, c'est fini.
Ouais, c'est bon là. On va passer maintenant au témoignage de notre sœur Wafa qui est venue nous raconter justement comment cette faveur divine a été sur elle, sur sa famille, tout au long de ce voyage de l'Égypte jusqu'ici au Canada. Je vous laisse regarder son témoignage dans la rubrique C'est mon histoire. Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, je reçois une sœur, Wafa. Bonjour Wafa.
Bonjour Evelyne.
Ça va ?
Ça va, merci.
Merci beaucoup à toi d'être avec nous pour nous partager ton histoire. Tu nous viens tout droit de l'Égypte avec ton mari et tu vas nous raconter aujourd'hui comment vous avez expérimenté vraiment la faveur divine dans toute cette immigration qui était vraiment orchestrée de Dieu. Mm-hmm. Je tiens à le préciser. On va commencer l'histoire dans votre vie en Égypte, votre quotidien. Tu me disais que vraiment vous étiez épanouie en Égypte et que quand vous vous êtes mariée, vous vous êtes dit « nous ». On va toujours rester en Égypte.
Ouais, c'est ça.
C'était vraiment le désir de votre cœur. Ouais. Et vous étiez très impliquée en Égypte, c'est ça?
Oui. En fait, on était impliquée pour les services des jeunes adultes durant l'âge d'université. On était responsable un peu pour faire des camps pour les jeunes durant 4 ou 5 jours pour enseigner les jeunes, pour parler du Seigneur. C'était des camps sportifs, mais en même temps, c'est spirituel, chrétien. On était impliqués aussi à l'église, les groupes de prière,
des groupes de maison, c'est ça
tu des groupes de maison et disais, aussi ou... oui, des groupes de maison à notre maison en fait, toujours des groupes de prière à la maison avec plusieurs familles et aussi même à l'église aussi.
C'est ça, vous aviez pour habitude de recevoir des familles chez vous pour prier, c'était dans votre routine ça.
Oui, c'est ça.
Et c'est ça, votre cœur était très attaché à l'Égypte. Vous aviez tous les deux un bon travail, vous avez eu deux enfants. Et bon, vous vous projetiez vraiment en Égypte. Mais au bout d'un moment, dans ton cœur, tu as senti monter un désir pour venir au Québec, c'est ça?
Au début, c'était un sentiment pour... pourquoi pas on essaie de commencer les processus de migration? Parce que je savais que ça prend des années pour avoir l'immigration. Au début, j'avais l'idée, j'ai parlé avec Annie, mon mari. Il m'a dit non, on ne veut pas immigrer, on est correct en Égypte, tout va bien, le travail, les enfants, la famille, le ministère. Alors, je lui ai parlé à plusieurs reprises, à chaque fois, elle dit non. Puis, à un moment donné, il m'a dit OK, on va essayer de commencer le document pour envoyer le document pour l'immigration. Et on verra, parce que, anyway, ça prend des années pour faire ça. On a commencé le document, on a envoyé tous les documents d'immigration. On a reçu le numéro de dossier après à peu près un mois.
Ce qui est excessivement rapide.
C'est ça.
Ça, c'est déjà juste le numéro de dossier en un mois. Là, vous avez dû vous dire, waouh, Dieu est dans le coup.
Quand on a commencé l'immigration, c'était pour le Québec. Oui. Et pour le Québec, il y aura un examen, une entrevue en français pour les immigrants. Puis après ça, 3 mois plus tard, on a reçu le sélection de certificat de Québec. Quand on a reçu par poste le certificat, on ne savait pas même c'est quoi parce que nous, on attendait la date pour l'entrevue, pour Henrik qui prépare lui-même pour apprendre un peu le français.
Oui, parce que toi, tu étais allée dans une école française, tu avais étudié toujours dans une école française, donc tu parlais couramment français. Mais ton mari, Henrik, lui, était anglais, arabe, mais rien en français. Et donc, au bout de 3 mois, vous recevez le certificat de sélection du Québec qui vous dit qu'en fait, le Québec vous accepte.
Vous attend.
Sans passer d'entretien.
Le Québec nous attend.
Qu'est-ce qu'il dit, là, ton mari, alors qu'il n'était pas forcément très, très ouvert à l'idée?
Lui, il trouvait, quand il a vu le certificat de sélection, il trouve que ça commence à voir un peu, ça c'est un peu le chemin du Seigneur, la voie du Seigneur. Parce que lui, il a dit que si on va passer l'entrevue, si tout va bien, si après des années, on va recevoir la sélection de certificat, on va y penser. Mais il trouve lui-même, après 3 mois, il a déjà le certificat de sélection. Et il faut continuer.
Mais oui, c'est incroyable. Et ensuite, vous avez commencé les démarches auprès du Canada, parce que c'est comme ça que ça se passe. Hein, d'abord le Québec, ensuite le Canada.
Ouais.
Et ça a pris en tout environ un an et demi, c'est ça?
À peu près, oui.
Pour avoir vraiment le document, le visa document, de résidence.
Avoir le visa d'immigration, oui.
Donc, ce qui était assez extraordinaire, parce que dans toutes vos amis, vos connaissances, c'était personne. Quoi, 5-6 ans?
Oui, c'est ça. Et on ne connaît personne qui a eu le certificat de sélection sans passer l'entrevue. Parce que parmi les défis pour Annie et moi, c'est de passer l'entrevue, de parler en français, les convaincre qu'on parle bien français, on peut vivre au Canada ou au Québec. Alors, lui n'a pas besoin de passer l'entrevue. C'était comme la première lumière pour nous.
Vraiment?
C'est pour le Québec.
Et tu commençais à prier pour savoir où au Québec, parce que le Québec, c'est quand même vaste. Et beaucoup de gens allaient s'installer plutôt en Ontario, qui est la province à côté du Québec, parce que c'est anglophone plutôt. Donc, c'était plus facile. Et tu me disais que vraiment, Dieu te répondait de façon très précise.
Oui, c'est juste pour convaincre Annie que d'émigrer au Canada, c'était comme ça prend des années un peu. Puis après ça, c'est l'idée, c'est où exactement au Canada? C'est en Ontario ou au Québec? Parce que nous, oui, on a déjà le certificat de sélection du Québec, oui, mais on a droit de vivre ailleurs, en Ontario ou partout. On avait plein des amis qui sont déjà des pharmaciens qui peuvent nous aider pour l'intégration, pour les débuts, pour les examens, pour tout.
Oui, parce que vous étiez tous les deux diplômés en tant que pharmacien en Égypte.
On était les deux pharmaciens. Alors, c'est juste au début, quand on va émigrer, c'est juste avec nos amis, avec la plupart des amis, on a plein d'amis, en Ontario. Puis après ça, j'avais dans mon cœur, non, c'est pas l'Ontario, c'est Montréal.
Montréal qui est au Québec.
C'est hein. Montréal, c'est Québec, oui. Quand je parlais avec Annie, elle dit, j'ai une voix en dedans de moi, c'est pour le Québec ou le Montréal. Elle m'a dit, non, c'est pas facile. Moi, je ne parle pas français. Ce que je peux faire pour émigrer, que je vais étudier pour passer les examens de pharmacie. Et c'est quand même dur pour passer les examens en travaillant en Égypte avec la famille, avec le ministère. Je lui dis d'apprendre la langue française pour travailler pharmacien, c'est impossible pour moi.
Vraiment?
Puis après ça, OK, je continue à prier. Lui aussi, il a continué à prier. Jusqu'à un moment, on a reçu, durant une réunion de prière à notre maison, un frère de notre ami qui vit ici à Montréal, qui nous a parlé. Quand il a parlé, on a senti quelque chose dans nous que oui, c'est vraiment à Montréal.
C'est ça, c'était, il vous disait, venez à Montréal, il y a un vrai besoin.
Il y a vraiment un besoin, c'est
et
ça.
Et dans le cœur de ton mari, là, c'était comme une confirmation, vraiment.
Yeah, oui, c'est ça.
C'est là que Dieu nous...
Après cette réunion, elle a décidé, OK, on commence à Montréal.
Ce qui était un vrai défi, quand même.
Vraiment un défi.
Au niveau de la langue, au niveau de tout. Hein.
Au niveau de la langue, au niveau de famille, parce que c'est un ami qu'on a vu une fois chez nous à la maison en Égypte, mais on ne le connaît pas.
Mm-hmm.
On ne connaît personne à Montréal, mais on connaît plein de personnes, plein des amis, des amis qu'on connaît vraiment bien à Toronto qui peuvent nous aider. Mais ce qu'on a décidé, on va commencer à Montréal.
Ce qui est très loin de Toronto, c'est vraiment pas à côté. Vous partiez dans l'inconnu total, en fait.
Ouais.
Et là, il y avait le problème du travail qui allait arriver, qui allait commencer à se poser. Ton mari a eu un mois pour réviser les examens.
Pour le premier examen.
Pour le premier examen. Et il a dû venir à Montréal pour passer son premier examen.
Oui.
Comment ça s'est passé?
C'était en 2010, quand on a reçu le visa d'immigration. On a parlé avec nos amis pour dire qu'on a déjà le visa d'immigration.
Mm-hmm.
Ils ont dit, OK, venez au mois de juillet, venez durant l'été, passez un mois ici et profitez de cette chance que Henny peut passer son premier examen. On a dit qu'il n'a pas le temps d'étudier.
Mm-hmm.
On dit, OK, il doit faire son mieux pour étudier. Il a étudié à peu près un mois avant de venir ici. Il a passé son premier examen. Il trouve que c'est vraiment impossible. C'est comme premier défi, c'est comment il va étudier, comment il va passer un examen. Mais la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, il a réussi son examen.
Wow!
C'est ça, c'est comme, oui.
Wow, il a réussi le premier. Le deuxième,
mm-hmm. le troisième.
Mm-hmm.
À chaque étape, on voit vraiment la face de Dieu. On trouve vraiment la faveur de Dieu.
Mm.
Dès le début, quand on a reçu le certificat de sélection en 3-4 mois, ce n'est pas parce qu'on est mieux que les autres, c'est que c'est le Seigneur qui conduit nos pas. C'est comme,
exactement.
Il voulait faire quelque chose. On ne sait pas c'est quoi, mais on a senti que ça, c'est la voie de Dieu, c'est le chemin du Seigneur. C'est une petite lumière dans notre chemin, donc. On va diriger vers cette lumière.
Amen, amen. Et vous êtes arrivé ici en 2012,
en
si
2012,
je ne me trompe pas, au Québec.
En 7 février en 2012.
Exactement.
Oui.
Et puis, assez vite, vous avez vraiment vu la main de Dieu. Vous aviez l'appartement qui était situé à l'endroit parfait.
C'est ça.
Vos enfants qui ont trouvé des amis. Et vous avez surtout vu un besoin au niveau de la population chrétienne égyptienne, c'est ça?
Oui. Dès le premier jour qu'on est arrivé ici, notre ami a trouvé déjà un appartement à côté de lui. Et à côté de lui, il y avait d'autres familles qui avaient des enfants, même âge que nos enfants.
Mm.
Donc, c'était vraiment une bénédiction du Seigneur. C'est la faveur du Seigneur toujours avec nous.
Amen.
Même avec nos enfants, ils ne sont pas tout seuls. Parce qu'en Égypte, on avait une grande famille avec plein de cousins, avec l'Église. Quand on est arrivé ici, comme le Seigneur a vraiment préparé une table devant nous.
Mm-hmm.
C'est pour les enfants, pour nous, c'est... Et on a commencé aussi à faire, comme on fait d'habitude, les prières. On prie avec les familles parce qu'on n'avait rien à faire. On n'a pas d'études pas.
Au début,
on avait plein de temps. Donc, on prie avec les familles 2-3 fois par semaine. On a vécu vraiment des moments formidables. On a vu la face de Dieu. On a vu la faveur de Dieu qu'il nous attend. C'est comme le Seigneur nous attend ici. C'est lui qui a préparé tout. C'est lui qui a préparé la place, qui a préparé l'appartement. C'est lui qui a conduit nos pas. C'est lui qui... Sa faveur qui règne a réussi tous les examens.
Oui, vraiment.
Et vous avez démarré un ministère auprès des chrétiens égyptiens, oui, et aussi des anciens musulmans devenus chrétiens,
oui,
et auprès des enfants particulièrement. Toi, tu me disais que tu avais vraiment un fardeau pour les enfants.
Pour les enfants, ce qui est nouveau, parce qu'en Égypte, notre ministère, c'était toujours auprès des jeunes, des adultes, mais moi, je n'ai jamais servi au ministère des enfants. Mm-hmm. Mais ici, quand on a commencé à prier avec les familles, on trouvait que qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Eux, ils restent pour jouer juste à côté de nous. On avait comme quelque chose dans le cœur de commencer quelque chose pour les enfants. Mm-hmm. On a commencé déjà le ministère pour les enfants dans notre appartement. On avait un appartement. On a reçu les enfants de nos amis. J'ai dit, venez avec vos enfants. Ce sera juste un ministère pour les enfants. On va louer le Seigneur, on va chanter, on va donner un enseignement chrétien. Et on a commencé dans notre appartement.
Et c'est ça, et petit à petit, ça s'est agrandi. Vous avez loué une salle. Et vous, parallèlement à ça, vous êtes impliquée dans une église canadienne aussi.
Oui.
Et l'un des fardeaux que vous avez, c'est d'aider à l'intégration en fait des chrétiens arabes,
oui,
dans l'église canadienne pour qu'il y ait vraiment un échange culturel qui puisse se faire.
Oui, c'est ça. C'était dans notre corps toujours. C'est nous, comme communauté égyptienne, on prie, on loue le Seigneur toujours en arabe. Mais avec nos enfants qui ont grandi ici, c'est comme tout le temps, ça devient le français plus que l'arabe.
Oui.
On garde quand même les deux langues, mm-hmm, mais il y a toujours comme une séparation entre parents et enfants parce que les parents préfèrent prier en arabe et les enfants deviennent plus français.
Oui.
Alors, ce qu'on a fait, ce que la faveur du Seigneur a fait pour nous, c'est qu'on a déjà maintenant une place, une église qui a accepté de faire notre ministère à West Island, à côté de chez nous, à la maison. Donc, on a une place pour les enfants, pour les adultes, pour les enfants. Et aussi, le Seigneur a ouvert une autre porte avec l'Église sans frontières. Alors maintenant, on y est ensemble. Il y a des pasteurs, des personnes qui viennent de l'Église sans frontières pour faire, avec les groupes égyptiens, des louanges, de l'enseignement.
Et une louange en français pour des Égyptiens, c'est
pour
vous.
Les enfants, c'est correct. Pour, oui, les adultes, c'est un peu
pour
dur.
Pour les adultes, c'est plus difficile.
C'est, oui, c'est un peu
mais
difficile.
Mais c'est vraiment dans cet objectif d'unir en fait les chrétiens, ouais, peu importe finalement leur langue,
ouais,
qu'on puisse passer cette barrière de la langue et puis vraiment s'unir en fait, c'est ça.
C'est ça.
Et puis au niveau des anciens musulmans aussi, ton mari enseigne régulièrement auprès d'eux,
oui,
c'est ça?
Oui, il enseigne. Mais ça, c'est en arabe, c'est pas en français.
Oui.
Oui, c'est. Mais c'est la question en français et arabe, c'est toujours avec les enfants.
Mm-hmm.
Mais pour l'autre ministère de Hani, c'est auprès des ex-musulmans, c'est toujours en arabe, ils enseignent la parole de Dieu.
Mm. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que vous êtes une famille épanouie. Vos enfants servent avec vous dans le, oui, ministère également, c'est ça?
C'est ça. Daniel, mon fils, et lui joue au piano.
Mm-hmm.
À toutes les réunions, c'est lui qui conduit louange avec le piano. Et même le plus jeune, Philippe, lui, il joue aux batteries. Et lui, il chante aussi. Il m'aide aussi pour faire les chants avec les enfants. Il joue aux batteries. Alors, je trouve que c'est une bénédiction du Seigneur de servir le Seigneur comme une famille.
Amen.
C'est pas seulement Henny, c'est pas seulement moi, si on est comme une famille.
Amen, amen. Je pense que c'est une grâce extraordinaire.
C'est la faveur de Dieu.
Amen. Ouais. Vous avez un appel ici, à Montréal, au Québec. Et je pense que c'est juste le début de ce que vous êtes en train de faire.
C'est vrai.
Bravo pour votre obéissance. Et merci beaucoup, Wafa, d'être venue partager ton témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ».
Merci, Evelyne.
Voilà encore un témoignage de la faveur divine. Et puis, hors antenne, Wafa m'a raconté encore plein de choses, en fait, qui se passaient dans sa vie, dans leur vie de pharmacien, qui peut paraître très banal, mais comment, en fait, Dieu se sert d'eux pour donner des paroles à certains clients ou patients, je sais pas comment on appelle patients, j'imagine, qui viennent les voir. Comment Dieu s'est servi de son mari également pour guérir certains de leurs collègues, etc. Wow. Donc, on voit vraiment que la faveur de Dieu a à peine commencé finalement, c'était les prémices et il y a une œuvre vraiment grande que Dieu est en train de faire avec leur vie. Et puis c'était un privilège d'avoir Wafa sur le plateau et ça nous rappelle justement à quel point en fait Dieu est avec nous. Donc peut-être vous nous écoutez et puis le témoignage de Wafa a résonné particulièrement dans votre cœur parce que vous vous apprêtez peut-être à quitter l'endroit où vous êtes, votre pays, parce que Dieu vous a appelé ailleurs, parce que vous sentez réellement qu'il y a une mission pour vous dans un autre autre pays ou peut-être juste dans une ville voisine à quelques kilomètres, mais c'est un déracinement pour vous. Ben, le témoignage de Wafa nous prouve à quel point, quand on est dans l'obéissance à la parole de Dieu, quand on marche vraiment dans l'obéissance aussi à son appel, Dieu est avec nous, sa faveur est sur nous et il ne peut rien nous arriver de mal. Le Seigneur est au courant de toutes choses et il aplanit notre sentier. Il dresse un tapis rouge devant nous, un tapis rouge glorieux, que ce soit auprès des autorités, que ce soit auprès de différentes écoles pour trouver du travail, pour toutes sortes de choses. Dieu a déjà prévu toutes choses. Donc soyez encouragés, soyez fortifiés dans ce voyage que vous vous apprêtez à faire pour répondre à l'appel de Dieu. Je le reprécise parce que c'est important. On l'a dit, la faveur de Dieu marche aussi avec notre obéissance, avec notre disposition de cœur. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Sans Jérémy, certes, mais je suis sûre que tu viendras nous faire un petit coucou de temps en temps. Et avec toute notre équipe de chroniqueurs, on se réjouit, on vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.